La question donc aujourd'hui du message est « Dieu guérit-il aujourd'hui ?» Et donc c'est une question qu'on pourrait se poser, on se pose habituellement quand on découvre la foi. Et j'aimerais en fait y répondre par quelques éléments de ma mémoire, de mon expérience. Et pour ça, j'aimerais vous parler donc de trois choses qui me sont arrivées, que j'ai vues. La première, c'était en 2011, dans une conférence de l'IMG, où j'ai vu une dame dans un fauteuil roulant se lever pendant la conférence, alors qu'elle venait demander la prière sur la scène. Le prédicateur a prié pour elle et elle s'est levée. Et après, j'ai vu les témoignages de cette dame qui racontait son témoignage, qui expliquait que voilà, elle avait été dans cette chaise roulante pendant plusieurs années, elle s'est levée, et même plusieurs années après cet événement, eh bien, elle continuait d'être sans fauteuil roulant. Ça, c'était, on va dire, un miracle incroyable que j'ai vu, une guérison incroyable. Deuxième, je me retrouvais en Allemagne dans une conférence où il y avait Todd White, un célèbre évangéliste, et cet évangéliste, en fait, prie beaucoup pour les malades. Et il disait justement que les 1000 premières personnes pour qui il a prié, il ne s'est rien passé, mais à partir d'un moment, il a commencé à avoir des guérisons et des guérisons et des guérisons. Et alors que j'allais lui poser une question, donc je faisais un peu la file pour aller lui poser une question pendant une pause de la conférence, il s'est arrêté à un moment donné, et il a commencé à prier pour une serveuse qui avait une attelle à sa main et qui nettoyait la table, et elle a été complètement guérie. Elle a pu enlever son attelle, elle n'a plus aucune douleur. Et dans ma propre vie, j'ai aussi prié pour des gens, pour des maux de tête, pour des douleurs de genoux. Il peut y avoir toutes sortes de choses, mais la prière pour la guérison devient un style de vie. C'est ça que j'ai remarqué, au bout d'un moment, ça devient un style de vie, donc on commence à prier pour les gens, et finalement, on ne compte plus ceux qui sont guéris. On ne compte plus toutes les guérisons qui peut y avoir, parce que ça devient véritablement un style de vie. Donc, si on rentre maintenant par rapport au style de vie, si on veut parler du style de vie, eh bien, pourquoi est-ce que c'est un style de vie? Parce que Jésus avait ce style de vie aussi. Jésus avait vraiment un style de vie où il voyait des guérisons, où il priait pour les malades. Et ça, on le voit dès le début de son ministère. Dans Matthieu 4, 23 à 25, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée ». Et il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. On parle ici de maladies, de douleurs diverses, de divers genres, de démoniaques, d'épileptiques, de paralysés, et il les guérissait. Ça, c'est tout au début, juste après qu'il ait appelé ses disciples. Mais plus tard aussi, dans Matthieu 9, de nouveau, il proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Et il dit à ses disciples à ce moment-là, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ma question c'est, est-ce que vous serez vous aussi de ces ouvriers prochainement? Il faut savoir que ce style de vie n'est pas resté au niveau de Jésus. Jésus a transmis ce style de vie ensuite, et il le transmet aux croyants d'abord. Il dit justement ceci en Jean 14, 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Ça veut dire que si aujourd'hui vous croyez en Jésus, vous pouvez guérir un malade, vous pouvez prier pour la guérison et voir des guérisons arriver. Donc il n'y a pas besoin d'être avancé. On peut simplement croire en Jésus. Aussi, les disciples ont reçu très, très vite, dans Matthieu 10, le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Plus tard, quand Jésus part, on voit aussi les apôtres qui font beaucoup de signes miraculeux et de prodiges et voient beaucoup de choses se produire aussi. Et finalement, dans l'histoire de l'Église, ensuite, donc après l'histoire des apôtres, après le Nouveau Testament, on a aussi différents témoignages parmi les pères de l'Église, notamment Irénée de Lyon, Origène, Augustin d'Hippone, donc saint Augustin. Et il disait ceci, en l'an 130 à 200 après Jésus-Christ, donc un siècle après le Nouveau Testament, disait eh bien, que les véritables disciples accomplissaient vraiment des miracles en son nom et qu'ils avaient le pouvoir de promouvoir le bien-être aux hommes. Et également, ils expulsaient des démons. Ils avaient la prescience des choses à venir. Ils avaient des paroles prophétiques. Ils guérissaient des malades. Même des morts ressuscitent. Donc là, on est à un siècle après le Nouveau Testament. Origène aussi raconte que les disciples, les chrétiens chassent des esprits impurs. Donc là, deuxième siècle après le Nouveau Testament. Prédisent certains événements, font disparaître les maladies. Et finalement, saint Augustin va aussi, alors là, trois siècles après, parler aussi de miracles qui se sont faits en son nom. Et il va parler notamment d'un aveugle qui recouvre la vue, d'un médecin qui guérit de la goutte pendant son baptême, d'une autre personne qui guérit aussi pendant son baptême de paralysie et d'hernie. Et il voit tellement de miracles qu'il sait pas, il n'arrive pas à tous les nommer, mais il dit que Dieu est bien fait par l'intermédiaire de qui il veut, comme il veut, ces miracles encore à son époque. Donc maintenant, j'aimerais arriver à ce que j'appelle la mission. Finalement, ce que je disais, est-ce que vous êtes prêts à devenir aussi ces ouvriers qui sont appelés à la moisson? Et effectivement, c'est pas si facile d'entrer dans la mission. Et des fois, on a plusieurs appréhensions. Et il y a aussi des choses, peut-être qu'on va voir ensemble maintenant, qui sont nécessaires d'avoir avant d'entrer dans la mission. Ce que j'appelle les prérequis et l'attitude. Alors, je vous propose de regarder ça ensemble. Quels sont les prérequis et quelle est l'attitude qui va permettre finalement qu'on puisse entrer dans cette mission? Eh bien, j'aimerais prendre pour vous ce texte dans Matthieu 17, 14 à 21, que j'ai aussi eu le privilège d'étudier pour mon travail de bachelor. Donc j'ai pas mal fouillé dans ce texte, j'ai pas mal étudié ce texte, et il y a vraiment des clés pour répondre à cette question un peu. Et j'aimerais lire avec vous. Donc lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, là ils descendaient de la montagne de la Transfiguration avec ses disciples. Et ils discutaient, et il faut savoir que ce texte, donc, il intervient juste après la Transfiguration, et juste avant le chemin que prend Jésus maintenant vers Jérusalem avec ses disciples pour être crucifié. Donc c'est un peu la dernière traite, on va dire, que Jésus a avec ses disciples. Il dit ceci: lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc ils attendaient en bas de la montagne, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et il dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. » Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Alors, Jésus va s'exclamer: Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri. À partir de ce moment-là, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et là commence l'explication de Jésus qui est très intéressante. « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque-là », elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et c'est cette petite explication de Matthieu 17-20 que j'ai pris que j'ai étudié pour ce travail de bachelor, que j'ai pris en profondeur pour connaître, et qui amène une clé. Donc on va la relire justement, et il leur dit, on voit une progression, c'est pour ça qu'il y a cette structure progressive, on va dire, et il leur dit: c'est à cause de votre petite foi, et quelque chose de très petit finalement, qui est plus petit qu'une graine de moutarde. Parce qu'après il dit: en vérité je vous le dis, vous, en effet, si vous avez une foi comme une graine de moutarde, eh bien, vous diriez à cette montagne, et là, on s'agrandit tout de suite, une montagne, d'ici, passe d'ici à là, elle passerait. Vous imaginez, elle s'élève, se jeter dans la mer, et rien ne vous sera impossible. Et là, on termine avec rien n'est impossible. On passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand, juste dans cette phrase. Et il y a des choses extrêmement intéressantes dans cette phrase. Et je vais en dégager quelques principes que j'ai pu découvrir derrière. Déjà, quelle est la taille de votre foi ce matin? Votre foi, elle peut être absente aussi. Elle peut être totalement absente. Peut-être que vous m'écoutez ce matin, mais vous n'avez pas la foi pour la guérison. Vous dites, bon, j'ai pas la foi ni en Dieu, ni dans la guérison, ni rien de tout ça. Ok, pas de souci. Vous pouvez aussi avoir une petite foi. Une petite foi qui est presque une fumée, qui n'est pas encore très solide. Et après, il y a une foi comme une graine de moutarde. C'est vrai qu'une graine de moutarde, c'est assez petit, mais l'avantage d'une graine de moutarde, c'est qu'elle est solide, elle est réelle, elle est palpable. On peut la sentir dans les doigts. Et puis quand on la plante, eh bien, on sait par une autre parabole qu'elle devient comme un grand arbre qui accueille les oiseaux du ciel. Et cette petite graine, eh bien, c'est quelque chose de solide. Est-ce que vous avez une foi comme ça qui est solide, une toute petite chose qui est solide en vous? Quelque chose que vous savez que vous ne pouvez pas remettre en doute. Et ça commence à être intéressant, nous dit Jésus. Après, il y a aussi les grandes fois, comme la foi du centenier. Jésus va dire, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël, parce que le centenier, il dit, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Donc, une guérison à distance. Après, quel est l'objet de votre foi? En qui est-ce que vous mettez votre foi? Est-ce que vous la mettez en vous-même pour guérir les malades? Est-ce que vous la mettez en Dieu? Est-ce que ce Dieu, il est lointain? Est-ce qu'il est proche? Est-ce que c'est un Dieu qui se fait discret? Est-ce que c'est un Dieu présent? Est-ce que c'est un Dieu omnipotent? On voit ici que tout est possible. Donc, quand on met la foi dans ce Dieu-là, eh bien, c'est un Dieu omnipotent, c'est un Dieu qui peut tout. Quelle est votre motivation aussi derrière la foi? Est-ce que votre motivation, elle est de demander quelque chose qui est un dû à Dieu? Vous dites, bon, ben, Dieu, tu as dit que les gens doivent guérir, donc je prie et les gens guérissent. Est-ce que c'est vraiment un dû? Est-ce que c'est mécanique? Donc là, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que ce n'est pas un dû, ce n'est pas mécanique, ça n'arrive pas à chaque fois. Même les disciples qui avaient, à ce moment-là, déjà beaucoup prié pour la et vu des guérisons, vu des délivrances, eh bien, échouent, entre guillemets. Est-ce que c'est une dépendance totale à Dieu? Est-ce que vous avez une dépendance totale? Est-ce que vous mettez toute votre foi en Dieu pour ça? Et est-ce que vous le faites aussi par obéissance? Ou est-ce que vous le faites juste par opportunité? Ou est-ce que c'est par obéissance que vous le faites? Je crois que les disciples, à ce moment-là, ils le faisaient par obéissance, ils le faisaient dans une dépendance, mais peut-être qu'ils avaient une motivation qui n'était pas tout à fait juste. La seule réponse que Dieu donne, que Jésus donne à cet endroit-là, où il y a une absence de guérison, eh bien, c'est le manque de foi. Quelle est votre réaction quand il n'y a pas de guérison? Peut-être que vous avez déjà prié pour quelqu'un, vous avez vu qu'il n'y avait pas de guérison. Est-ce que vous vous découragez? Est-ce que vous vous arrêtez à ce moment-là? Ou est-ce que vous continuez d'obéir et de dépendre de Dieu? Comment est-ce que vous réagissez? Finalement, la meilleure garantie d'un résultat, eh bien, c'est une dépendance totale à la volonté de Dieu. Et ça, on le voit encore plus précisément dans 1 Jean 5, 14 à 15, je propose de prendre aussi ensemble, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, eh bien, il nous écoute. Il y a une relation. Ce n'est pas juste nous ou juste lui qui fait, mais on fait ensemble et on demande conformément à sa volonté. Et si nous savons qu'il nous écoute, eh bien, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons aussi ce que nous avons demandé. » Il y a un échange, il y a une dépendance à sa volonté. Voilà, j'espère que ça vous est clair. Maintenant, dans la pratique aussi, une fois qu'on commence, on va dire, à prendre son courage à deux mains, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh bien, la première chose qu'on peut faire, c'est demander déjà à la personne pour qui on veut prier, qu'est-ce qui ne va pas? Jésus va faire ça aussi dans Luc 18, 40, 41. Il va dire à l'aveugle de Bethsaïda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il va lui poser la question. Il ne va, deviner, il va lui poser la question. Donc allons aussi vers la personne, simplement demandons-lui pourquoi est-ce qu'on peut prier. Si la personne dit quelque chose, mais que ce n'est pas très complet ce qu'elle dit, on peut aussi demander au Saint-Esprit de nous révéler la racine du problème. Par exemple, d'où vient cette maladie ou des choses comme ça. Des fois, le Saint-Esprit aussi nous oriente par des paroles de connaissance, des visions, pour savoir comment prier, etc. Des fois, c'est une question de pardon, peut-être qu'on n'a pas accordé, qu'on doit accorder à quelqu'un. Ça peut être des choses toutes pratiques comme ça qu'on peut, qu'on peut aider, où on peut aider la personne à aller de l'avant dans sa guérison. Deuxième chose, demander simplement à Dieu de guérir. Et ça doit être simple. Il ne faut pas, se compliquer la vie. Toujours au nom de Jésus. Ça peut se faire par l'onction d'huile, si on est conduit à ça, comme dans Jacques 5,14, mais aussi par l'imposition des mains. En ce moment, on essaie d'éviter l'imposition des mains, quand même, si ce n'est pas trop recommandé, mais Dieu peut aussi guérir à distance, comme ce centenier. Donc, n'hésitez pas quand même à prier, même si c'est pas recommandé en ce moment, l'imposition des mains, prier quand même à distance. Et troisième chose, demander à la personne ce qu'elle ressent. S'il ne se passe rien, eh bien on peut continuer à prier. Si la personne se sent guérie, mais on n'est pas sûr, on n'a pas de certificat de guérison, eh bien on verra que le temps va confirmer la chose. Mais déjà elle se sent guérie, elle se sent mieux. Si elle se sent mieux mais qu'elle n'est pas complètement guérie, on peut prier à nouveau pour elle. Et Jésus l'a fait aussi dans Marc 8, verset 23, où il va poser de la salive sur les yeux d'un aveugle et il va demander s'il voit quelque chose. Donc il demande, Jésus s'attend à une guérison instantanée. Des fois on prie pour des malades et on a peur de poser cette question, on a peur de se dire mais est-ce que je pose la question, est-ce que ça va mieux ou pas? On veut juste prier et puis bonne journée. Mais non, Jésus va jusqu'au bout, il demande comment est-ce que ça va mieux? Et l'aveugle va dire, mais je vois mais des arbres qui marchent. Et Jésus, non, il dit, c'est pas normal, on va prier encore une fois. Et l'aveugle recouvre totalement sa vue. Et le miracle se produit au bout de deux prières. Donc c'est aussi important de pouvoir persévérer. Et aussi, après qu'on a prié, rassurer la personne et lui dire que Dieu les aime, qu'elles soient guéries ou non, finalement. Leur donner aussi la liberté de revenir pour demander la prière et les encourager aussi à contacter l'Église, à rester en contact avec l'Église. Souvent, les guérisons se passent à l'Église. C'est là qu'il y a aussi beaucoup de croyants et c'est là aussi qu'on va prier les uns pour les autres. Finalement, persévérer dans la prière. On peut être découragé souvent parce que ça ne se passe pas de manière spectaculaire comme cette dame en fauteuil roulant à la conférence de l'IMG. Et du coup, on arrête de prier pour cette personne, mais persévérons et faisons-le aussi par obéissance. Rappelons-nous de cette obéissance à avoir et cette mission que Jésus nous donne d'annoncer le royaume de Dieu et de manifester sa venue par des miracles. Finalement, si on persévère année après année, on va voir des guérisons. Je suis aussi parti avec l'IMG une fois en stage au Proche-Orient. On s'est retrouvé dans le désert à une grande conférence de guérison et d'annonce de l'Évangile. Il y avait 800 personnes qui étaient là, des personnes assez pauvres, on va dire, qui venaient, qui cherchaient vraiment des solutions à leurs problèmes, à leurs maladies, etc. Et on a eu 3 jours de conférence. Et toutes ces personnes se sont avancées à chaque réunion, on va dire. Et on avait des centaines et des centaines de personnes qui demandaient la prière. Et nous, notre job, c'était de prier pour les malades, de prier. Et j'ai dû prier pendant ces 3 jours pour une centaine de personnes, je pense. Et après, en regardant après la conférence, j'ai vu qu'il y a au moins 3 personnes que j'ai pu voir, soit qu'elles allaient mieux, vraiment mieux, qu'elles étaient guéries de leurs bras qui leur faisaient mal, ou délivrées, complètement délivrées, ou d'une jambe. En fait, 3 personnes avaient clairement des signes de guérison. Et donc, finalement, ça me fait un constat de 3% de guérison, parce que j'ai prié pour 100 et il y en a 3 qui ont été guéris. Et Jean-Claude Chablot parle dans son livre d'un constat de 5% pour lui, environ 5%. J'ai entendu parler de personnes qui arrivaient à 40% de guérison sur toutes les personnes qu'elles prient. Témoignage aussi de Todd White qui a prié pour 1000 personnes et ne s'est rien passé et ensuite il a commencé à avoir des guérisons. Donc finalement, ce qui est important, c'est de pouvoir commencer à prier et de le faire dans une attitude d'obéissance et dans une motivation qui est d'obéir et de suivre ce que Jésus nous demande finalement. Ma question donc ce matin pour vous, quand est-ce que la dernière fois que vous avez prié pour un malade? Et est-ce que si vous ne le faites pas, est-ce que c'est par peur? Est-ce que la raison principale, c'est une peur de l'échec? Et si c'est ça, ou de ne pas voir la guérison, de se dire, mais Dieu ne va peut-être pas guérir la personne. Il y a une chose qui est sûre, là au milieu, c'est que si vous ne priez pas, eh bien, il n'y aura pas de guérison. Par contre, si vous priez beaucoup, vous verrez quelques guérisons. Et ça, c'est magnifique. C'est clair, dans mon voyage au Proche-Orient, j'ai prié pour tellement de monde. Et je pourrais me dire, ah, mais il y a tellement de monde qui n'ont pas été guéris. Mais les trois personnes qui ont été guéries m'encouragent tellement dans ma foi et m'aident tellement à me dire, c'est possible et je vais continuer. Donc, je vous encourage à prendre ça en main, d'aller, de rentrer dans cette mission que Dieu nous donne et puis d'aller oser le faire par obéissance et dans une bonne attitude. Voilà. Et j'aimerais prier encore un bref instant avec vous. Et du coup, prendre deux temps d'appel maintenant avec vous. Le premier temps d'appel, c'est pour justement rentrer dans cette moisson d'ouvriers ensemble. Et donc vous savez, si vous êtes croyant, ça suffit pour commencer à prier. Et après, vous pouvez continuer dans cette pratique et voir ce que Dieu vous appelle à faire. Et je vous invite juste à lever vos mains vers le ciel et à demander. Dieu dit, aspirez au don spirituel. J'aimerais prier simplement avec vous et pour vous, pour ce don. Seigneur Jésus, merci pour toutes les personnes qui écoutent ce message ce matin. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu leur donnes peut-être la foi pour commencer à prier pour les malades et pour demander cette puissance que tu as donnée à tes disciples. Cette autorité sur les esprits mauvais, cette puissance pour guérir les malades. Seigneur Jésus, merci parce qu'on peut confier notre foi en toi pour cela, Seigneur, parce que tu es un Dieu omnipotent et que tout est possible en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, maintenant, de mettre ton Saint-Esprit, Seigneur, sur ces personnes. Viens remplir tout un chacun, Seigneur, que chacun puisse recevoir, ressentir ta présence et recevoir ce don de guérison et cette pleine assurance que tu les envoies pour amener la guérison, Seigneur, pour amener la bonne nouvelle de ton royaume avec des guérisons miraculeuses. J'aimerais faire un deuxième appel pour toutes les personnes qui sont malades ce matin. Comme on a vu l'histoire du centenier, Dieu guérit à distance. Et j'aimerais proposer que si vous êtes malade ce matin, vous mettez simplement votre main là où vous avez mal, là où vous avez des douleurs, là où vous avez des problèmes. Et si c'est un problème, on va dire, dans votre travail, vous pouvez mettre votre main sur votre téléphone qui peut représenter votre travail ou quoi que ce soit. Et je vais simplement prier pour vous. Et toutes les personnes qui nous regardent aussi peuvent également prier pour toutes ces personnes qui ont des douleurs. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as pris sur la croix, Seigneur, tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos fautes, toutes nos maladies, Seigneur. Et tu viens non seulement nous annoncer la bonne nouvelle du salut, mais également la guérison, Seigneur, des corps, la guérison des situations. Et je te prie pour toutes ces personnes qui ont une main, Seigneur, maintenant posée sur leurs problèmes, Seigneur. Viens, Seigneur, viens les toucher, Seigneur. Saint-Esprit, viens les remplir. Viens leur donner des clés pour leurs problèmes. Viens leur révéler, Seigneur, toutes choses, Seigneur, sur leurs problèmes. Viens aussi guérir toutes les douleurs de genoux, toutes les douleurs de Dieu, Seigneur, toutes les douleurs aux bras, aux membres, Seigneur, ou à l'intérieur du corps. Seigneur, viens guérir maintenant. Pose ta main sur eux, pose ta main bénissante et guérissante, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta guérison, Seigneur, que tu donnes librement, Seigneur Jésus. Sois béni, sois glorifié et élevé. Amen. Alléluia. Merci Jésus.